la marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'opération Barbarossa. Hitler attaque Staline. 22 juin 1941. L'URSS stupéfaite. L'URSS qui avait signé 2 ans plus tôt le pacte germano-soviétique. L'URSS, depuis les frontières qu'elle s'était partagées avec le Troisième Reich, l'URSS voit déferler sur elle 3 millions d'hommes. Précédés par les attaques d'aviation, 4 grands groupes de Panzer ouvrent le chemin aux armées du Nord vers les pays baltes, aux armées du Centre vers la Biélorussie avec l'objectif commun de Leningrad, aux armées du Sud enfin qui foncent vers l'Ukraine.
À 6h du matin, M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, fait connaître à la presse allemande et internationale la note adressée par le gouvernement du Reich au gouvernement soviétique. De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. Les divisions finlandaises et roumaines marchent aux côtés des armées du Reich. L'Italie, la Hongrie, puis la Slovaquie se sont jointes à la croisade anti-bolchevique. La lutte pour la défense de l'Occident est engagée. La plus grande offensive qui ait jamais été menée au cours de l'histoire est commencée.
À cette offensive, un nouveau trimestriel, Guerre et Histoire, consacre tout un dossier. Guerre et Histoire, c'est pas de l'histoire bataille à l'ancienne, c'est de l'histoire militaire et sociale tout à la fois. Le rédacteur en chef est Jean Lopez, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Guerre et Histoire vient de Sciences et Vie. Alors, vous-même, vous êtes un ancien officier de la marine.
C'est de la marine marchande, oui.
Oui, mais ça n'a rien de déshonorant. Et vous faisiez de la physique.
J'ai fait aussi de la physique.
En effet. Oui, mais il paraît que vous scrutez les 2 guerres mondiales depuis que tout petit vous savez lire.
C'est mon vice caché. Oui.
Alors, pour les Allemands, leurs alliés et leurs vassaux, on a entendu dans les actus françaises dont on a passé un extrait qu'il était question des Roumains, des Finlandais, il fallait faire vite en juin 1941 avant que les bras de l'hiver ne se referme pour protéger l'armée rouge. Il fallait faire d'autant plus vite, Jean Lepès, que le Troisième Reich avait attaqué peut-être un peu tard.
C'était une des thèses qui est avancée pour expliquer l'échec final. Je crois qu'elle est beaucoup relativisée aujourd'hui. Ils ne pouvaient guère attaquer avant pour 2 raisons. D'abord parce que jusqu'au début juin, il y avait des inondations énormes qui n'auraient pas permis à leur matériel mécanisé d'avancer bien loin. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Les concentrations ne sont pas terminées, le matériel n'est pas en place. Donc je ne souscrirai pas à cette thèse d'une attaque trop tardive.
Barbarossa, qu'est-ce que ça veut dire? Barberousse, l'Empire romain germanique?
C'est effectivement une référence à un empereur allemand du Moyen-Âge, auquel s'attachent tout un tas de fantasmagories qui ont été développées à la fin du XIXe et qui rattachent sa résurrection à la naissance d'un Reich millénaire.
Les tenants du Reich millénaire savent combien sont grandes les faiblesses du stalinisme, même si des chants martiaux, celui-ci date de 1938, partent de Moscou. Cette chanson qui date donc de 38, chanson soviétique, imagine la guerre qu'il faudra bien faire un jour contre les systèmes ennemis. Nous ne voulons pas cette guerre, mais nous vaincrons l'ennemi sur ses terres avec peu de sang, d'un seul et d'un grand coup. Staline écoutait peut-être cela au phono, en fumant sa pipe, mais rien ne s'est passé comme cela. D'ailleurs, dira Churchill plus tard, les choix de Staline à la fin des années 30 semblent une devinette enveloppée de mystère au sein d'une énigme.
Personne n'a compris, notamment la monstrueuse purge de l'armée en 1937 et 1938, qui va décapiter toute l'armée rouge d'un coup, puisqu'il y a 40 000 arrestations, 20 000 exécutions. L'essentiel de l'encadrement disparaît.
Alors la purge de l'armée rouge, elle va toucher jusqu'au maréchal Toukachevski, l'un des maréchaux de l'empire stalinien et qui a la réputation d'être à la fois un grand théoricien, un grand équipementier aussi.
Oui, c'est l'homme qui pousse à la mécanisation massive de l'armée rouge, qui la met en avance par rapport à toutes les autres, mais qui est peut-être aussi en partie, là je vais être iconoclaste comme mon journal, qui est peut-être aussi en partie à l'origine du désastre de 1941. Avec sa doctrine de l'offensive à outrance.
Oui, mais moi je vais être provocateur comme votre journal, guerre et histoire. On a remplacé 40 000 officiers qui n'étaient pas nécessairement dociles à l'image de leur chef par d'autres, aussi nombreux, plus jeunes, plus dociles.
Certainement, et beaucoup moins instruits, et surtout terrorisés à l'idée de subir le sort de leurs devanciers.
Alors, 2 ans après les purges de 1937, le pacte germano-soviétique d'août 1939, Staline, après le retournement que nous évoquons aujourd'hui, l'opération Barbarossa, juin 1941, le justifiera encore.
Les Allemands ont attaqué toutes nos positions. Leurs panzers ont pénétré nos lignes et leur supériorité aérienne est évidente.
Staline !
Juillet 1941, Staline, donc après le début de l'offensive allemande, prononce un discours à la radio et à la télévision. Dans ce discours, il ne justifie pas le pacte germano-soviétique, c'est pas dans l'enregistrement. Par contre, dans l'article de la Pravda, qui paraît en même temps, à destination des étrangers comme de ses sujets, Staline dit, avec le pacte, est-ce qu'on a commis une erreur ? Et il fait la réponse à sa propre question. Non, bien sûr, parce que on a gagné du temps. Ça a été une perte de temps pour l'Allemagne fasciste. L'Allemagne fasciste, en plus, eh bien, elle a obtenu un certain avantage pour ses troupes pendant un court laps de temps, mais elle a perdu au point de vue politique en se démasquant aux yeux du monde comme un agresseur sanglant.
Ouais, c'est évidemment la fable que Staline invente pour justifier sa monstrueuse erreur de jugement vis-à-vis de l'Allemagne nazie, dont il a jusqu'au dernier moment refusé de croire qu'elle avait des intentions belliqueuses à son égard.
Oui, on dit qu'il est très méfiant vis-à-vis de tout le monde, et vis-à-vis de son entourage proche, beaucoup moins vis-à-vis de Hitler.
Oui, c'est Solzhenitsyn qui dit ça. C'est le seul homme peut-être auquel il a fait confiance dans sa vie, c'est Hitler. Ça pose d'énormes questions. Je pense que c'est probablement sur ce point que l'énigme reste entière. Les historiens n'ont pas dit toute l'histoire. Ça dort encore dans les archives. On aimerait en savoir plus sur les raisons de cette cécité de Staline, de son refus jusqu'au bout de croire à la réalité de l'attaque.
Parce que les archives du centre de décision en Russie actuelle ne sont encore que très incomplètement ouvertes quand même. Il y a beaucoup de polémiques en ce mois de juin 2011 et d'aucuns à Moscou, à Saint-Pétersbourg, disent « Mais non, Staline était en train de préparer quelque chose, une guerre préventive. »
Non, ça n'a pas sens. En fait, c'est une mauvaise lecture d'un document qui a été déclassifié en 1991 par Yeltsin et qui montre que le 15 mai, donc un mois et une semaine avant l'attaque, le général Joukov propose à Staline une attaque préventive pour bousculer la Wehrmacht. Et Staline, alors, on ne sait rien de ce qui s'est dit. La seule chose qu'on sait, c'est que Staline refuse l'attaque préventive et interdit même la mobilisation générale, toujours par la crainte de provoquer Hitler. Au fond, il est encore pire que Daladier et Chamberlain, dont il pensait qu'ils étaient des gens qui servaient la soupe à Hitler. Il a fait la même chose.
Est-ce qu'il avait, par exemple, préparé la protection des industries en cas d'attaque allemande, même s'il ne prévoyait pas une attaque allemande si rapide?
Ça a été prévu à la fin des années 20. Il y avait tout un plan de relocalisation de l'industrie à l'est de l'Oural. Ce plan a été abandonné, il n'a pas été remis à jour. Et lorsque les Allemands attaquent, les Soviétiques, dans l'improvisation et le chaos le plus total, vont réactiver ce plan et ils vont réussir, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, au-delà de ce qui était pensable, ils vont réussir à délocaliser 1530 usines de guerre.
Il faut citer des noms, vous avez cité celui de Joukov, on le retrouvera, il ne faut pas tout polariser sur Staline, qui organisait ces transferts de l'industrie, qui les préparait.
C'est le chef du Gosplan, du plan quinquennal, qui s'appelle Voznesensky, mais l'élément actif, c'est un tout jeune homme de 29 ans qui s'appelle Alexei Kosygin.
Les avertissements n'avaient pas manqué. L'avertissement de Churchill lui-même, qui avait pris l'initiative de toucher Staline, avertissement de l'espion Sorge.
Ouais. 87 sources différentes ont prévenu Staline qu'il allait être attaqué. 87 sources différentes. Il n'en a cru aucune.
Nous avons, grâce au pacte, il a dit ça le 3 juillet, ou plutôt il l'a fait écrire, nous avons gagné du temps. L'avantage, évidemment, pour les troupes allemandes après l'attaque va être clair, mais seulement pendant quelques semaines, dit Staline. Bah oui, le téléfilm d'Ivan Passer institue un dialogue entre Staline et son adjoint Beria. Qui joue d'ailleurs Staline ?
C'est un bistroquet de Tbilissi, qui s'appelle Touta.
Oui, parce que Staline était géorgien. Donc l'invasion vient de commencer, l'aviation soviétique a été clouée au sol.
Les Allemands ont attaqué toutes nos positions. Leurs panzers ont pénétré nos lignes et leur supériorité aérienne est évidente. Bon, contre-attaquer ici, 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 ici. Tu ne comprends donc pas la situation. Notre front est en miettes. Nos troupes battent en retraite pour éviter d'être capturées. Ni capture, ni retraite, ni reddition, l'attaque. Beria. Beria. Que les troupes de sécurité abattent tous les hommes qui tenteront de battre en retraite.
La main du bistroquet de Tbilissi est ferme. Il désigne tous les points de contre-attaque. Il y a un excès de centralisation dans la décision et un excès d'entêtement dans la centralisation.
Bien sûr, Staline est responsable des énormes pertes de la catastrophe des 6 premiers mois de la guerre. Ça n'est que très progressivement qu'il va faire confiance à l'encadrement de l'armée rouge qu'il avait décapité 3 ans avant. Très progressivement, je veux dire, avant Stalingrad, au fond, il ne fera pas confiance. C'est seulement à partir de Stalingrad, au moment d'ailleurs où il supprimera les commissaires politiques, qu'il va se dire, tiens, les Vassilevski, Joukov et autres, peut-être qu'avec ces gens-là, on va gagner la guerre.
Il fallait plus de souplesse.
Bien sûr, mais il a été incapable de déléguer. Jusqu'à la fin de la guerre, sa main de fer s'abattra sur l'armée rouge. Il y a des gens qui disparaissent et qui sont exécutés jusqu'à la victoire de Berlin.
Alors, autre énigme, le comportement dans ces premiers mois, nous sommes dans la première phase de l'opération Barbarossa, des soldats et des civils, quand dans l'été 41, les Allemands pénètrent très avant.
Une église d'apparence intacte.
Hélas, nous sommes au pays des Soviets et l'intérieur abrite une distillerie de vodka. Au fur et à mesure de sa progression, l'armée du Reich découvre les taudis, il vaudrait mieux dire les terriers, où s'abrite une pauvre population dont le niveau d'existence est effroyablement bas. Devant ces images de Smolensk, on comprend mieux la rancœur qui a saisi des hommes comme Walter Citrin ou comme André Gide. Et les paysannes se répandent en prières et en supplications devant les convois qui passent. Les exécuteurs soviétiques commirent des crimes odieux. C'est en effet peu avant la prise de la cité par les forces du Reich que les agents juifs de la GPU avaient massacré ici avec une rare bestialité les nationalistes ukrainiens. Des milliers d'hommes et de femmes ont été les malheureuses victimes de cette terreur rouge. La population ukrainienne livre aux troupes allemandes les commissaires juifs du GPU pour que justice soit faite.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean Lopez, dont la revue trimestrielle, dont il est le rédacteur en chef, Guerre et Histoire, publie un dossier sur l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS, qui commence le 22 juin 1941. Nous sommes là 2 mois plus tard, en juillet ou en août. Les Allemands ont avancé de plusieurs centaines de kilomètres. Les actus collaborationnistes françaises ont repris d'ailleurs la double obsession de Hitler. Vous avez noté, hein, le communisme soviétique et les juifs.
Oui, qu'il identifie. Hein,
GPU juif. Néanmoins, il faut bien constater, Jean Lepez, que les populations soviétiques, très maltraitées, accueillent les Allemands et leurs alliés, comment dire, avec une sorte de neutralité, le mot est de l'historien Martin Malia.
Oui, j'irai plus loin que vous. Dans les territoires récemment annexés par l'Union soviétique, à partir donc de 1939-40, c'est-à-dire dans les pays baltes, dans l'ouest de l'Ukraine, les Allemands sont souvent accueillis comme des libérateurs. C'est clair et net, là, aujourd'hui on ne revient pas là-dessus, tous les historiens russes sont d'accord là-dessus.
Il faut dire qu'en Ukraine, la famine et les purges avaient particulièrement sévi.
En Ukraine orientale, effectivement, la famine a laissé un souvenir épouvantable, ce sont des millions de morts. Mais c'est surtout la soviétisation des pays baltes et de l'Ukraine occidentale qui a été extraordinairement sanglante. Donc là, la Wehrmacht véritablement va trouver des gens qui sont prêts à l'aider, c'est incontestable. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que même dans la partie russe, ou dans l'Ukraine déjà soviétisée avant 1939, la paysannerie notamment n'est pas hostile, elle est plutôt attentiste. Mais elle n'est pas hostile à cette arrivée des Allemands. C'est dire si la base sociale du régime stalinien n'est pas dans les campagnes, elle est dans les villes.
On attendait la fin de l'agriculture d'État, on attendait la fin de la police d'État.
La liberté religieuse.
Du côté des nationalités, la fin de la tutelle de la Grande Russie. Alors ça, ce sont des civils, c'est des civils que vous parlez là, mais... Oui. Les soldats soviétiques, on a dit que beaucoup se sont laissés capturer.
Un historien russe qu'on interviewe dans Guerre et Histoire, là, Marc Solonin, le dit, lui pense que l'armée rouge est littéralement désintégrée. Désintégrée par refus de se battre pour le régime stalinien. Il a fait un certain nombre d'études en montrant que l'ampleur des pertes en matériel ne peut s'expliquer que par une déroute complète. Nous, on a regardé plus près, c'est pas aussi simple. Il y a les deux. Il y a une partie de l'armée qui s'effondre au premier choc, qui se désintègre, des unités qui disparaissent littéralement, des officiers qui se rendent par centaines, et à d'autres endroits, des gens qui se battent jusqu'à la mort. C'est pas aussi simple.
Alors on va passer à l'autre versant dans un instant, mais au moment où nous sommes parvenus, là, disons fin août 1941, quelles sont les positions ?
À la fin août 1941, les Allemands approchent de Kiev au sud. Ils sont à Smolensk et sur le Dniepr, et ils sont à environ 150 km au sud de Leningrad. C'est-à-dire qu'ils ont grosso modo fait un bond de 600 à 700 km vers l'est. Et ils ont pris, à ce moment-là, ils ont à peu près détruit 3 millions à 3 millions et demi de soldats soviétiques. Le gros de l'armée rouge n'existe plus.
L'objectif prioritaire n'avait pas été dans cette première période de l'opération Barbarossa, Moscou.
Non.
Non, d'ailleurs, c'est un objectif second.
Hitler n'y croit pas. Il parle d'une simple entité géographique. Son chef d'état-major de l'armée de terre, Halder, pense que le seul objectif qui vaille, c'est Moscou. Ils ne sont pas d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs une des causes de leur échec.
Fin de l'été 41, voilà où en est la situation. Et peu à peu, elle va changer. En témoigne cette chanson. Il faut toujours des chansons dans une émission sur l'Union soviétique. Celle-ci a survécu. C'est une chanson qui s'appelle La guerre sacrée, La guerre sainte, qui date de la fin de 1941, qui dit en substance que la guerre, en effet, se déroule. Il ne parle pas de la guerre. Cette chanson ne parle pas de la guerre de Staline. Elle parle de la guerre du peuple, une guerre du peuple qui va rassembler toutes les ressources sacrées du passé et du territoire soviétique. Dans le retournement qui va être celui de la population, les nationalités comme les grands Russes, les Allemands, portent une lourde responsabilité. Parce que comme vous dites dans Guerre et Histoire, votre dossier sur Barbarossa, Jean Lopez, ils n'ont pas fait preuve de la plus grande intelligence politique.
Oui, l'idéologie nazie est une... Enfin, sa brutalité n'est plus à démontrer. La seule carte, à mon avis... stratégique qu'Hitler pouvait jouer, c'était celle d'un soulèvement des populations, un soulèvement anticommuniste. Il ne l'a pas joué, il a joué la carte du massacre et de l'asservissement. Ça a commencé avec les Juifs, hein. Rappelons-nous quand même qu'un million de Juifs sont morts en juillet et août 1941. Ça a été le massacre abominable de 2 millions de prisonniers de guerre de l'armée rouge qu'on a laissé mourir à ciel ouvert, et ça a été les exécutions qui ont commencé dès octobre 1941 sous tout un tas de prétextes. Donc la population russe comprend très vite qu'elle a affaire à un ennemi qui n'est pas les armées du Kaiser en 18.
C'est autre chose. Sur chacun des points que vous venez d'énoncer, l'exécution des Juifs, c'est l'exécution en direct, sur place. Oui. Avec des tranchées
qui sont creusées par les Juifs eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. Mais là aussi, c'est très intéressant de voir le détail de la chronologie. Jusqu'au 10 juillet, les Allemands ont mis relativement peu d'hommes. C'est les fameux Einsatzgruppen. Ils ont simplement pour but de détruire les éléments judéo-bolcheviques, c'est-à-dire l'encadrement juif de l'armée rouge et du parti, etc. Et puis, à partir du 15 juillet, devant l'ampleur de leur victoire, ils prennent une première radicalisation. On tue tous les Juifs soviétiques. Et à ce moment-là, Himmler renforce massivement les équipes de tueurs. Ça, c'est un premier tournant. Le deuxième tournant, il est du 15 octobre 1941, quand les Allemands remportent une deuxième victoire géante à Kiev et à Vyazma-Bryansk. Là, c'est la deuxième radicalisation. On décide qu'on va liquider tous les Juifs d'Europe.
La liquidation des prisonniers se fait autrement, mais si les soldats de l'armée rouge s'étaient dans la première période laissés capturer, c'est qu'ils imaginaient les Allemands plus civilisés qu'ils ne l'ont été. Donc, vaste rassemblement, là aussi, en direct, en public, vous publiez des photographies de prisonniers qu'on laisse mourir de faim, parce qu'on n'a pas la logistique qui permet de les nourrir.
Ça, c'est ce que les Allemands diront, on n'avait pas la logistique, sauf que c'est complètement contradictoire, puisqu'ils ont prévu à l'avance qu'ils captureraient l'essence, ce qu'ils appellent la substance biologique de l'armée rouge. Donc, ils savent qu'ils vont faire des millions de prisonniers, c'est donc très sciemment qu'ils n'ont pas prévu les moyens de les nourrir.
La logistique manquait quand même pour les troupes elles-mêmes, pour l'approvisionnement en carburant, des camions, des panzers, surtout que le front était très long, très étiré.
Oui, c'est exact, mais encore une fois, ils avaient prévu qu'ils captureraient ces hommes, mais ils n'ont pas prévu de les nourrir. On peut donc les soupçonner largement, même s'ils n'ont jamais été prouvés directement, mais les faits sont là, ils les ont laissés mourir de faim.
Mais arrivaient-ils à nourrir leurs propres hommes?
Leurs propres hommes étaient nourris sur le pays. Mais il faudrait rentrer dans le détail, mais disons que malgré tout, c'est quand même un crime qu'on peut leur imputer directement.
Pour les panzers, pour les camions, il y a des camions qui venaient de France, dites-vous.
Beaucoup. Vichy a livré, en accord de la convention d'armistice en février 1941, 13 000 camions lourds français, qui ont permis aux Allemands de motoriser une partie de la logistique.
Les difficultés commencent parce que les chemins et les routes sont peu carrossables, l'essence est souvent absente et on ne va donc pas aussi vite qu'il le faudrait. Néanmoins, on avance dans le temps, septembre, après l'opération Barbarossa, l'opération Typhon. Alors l'opération Typhon, c'est un peu selon les mêmes méthodes, les panzers qui ouvrent le chemin avec l'aviation, direction, ça y est, Moscou.
Cette fois-ci, c'est effectivement Moscou que Staline a choisi. Il a hésité, il y a eu Kiev et puis Rostov, il pousse mollement vers le sud. Devant Leningrad, on s'arrête, on décide qu'on laisse mourir la population de faim en l'assiégeant, reste Moscou. Les Allemands partent tard, le début de l'offensive, donc le fameux Typhoon, est du début du mois d'octobre. Mais après une première victoire initiale qui se solde encore par plus de 600 000 prisonniers dans un double encerclement, les Allemands très vite sont obligés de se rendre compte qu'ils sont littéralement épuisés.
Parce que en même temps, sans cesse, des divisions soviétiques dont les Allemands ne soupçonnaient même pas l'existence sont jetées dans la fournaise, et symboliquement, elle passe par la place rouge pour une grande partie d'entre elles. Le 7 novembre, il fait assez couvert, ce qui permet d'éviter les bombardements des Allemands, qui sont à une soixantaine de kilomètres, et le grand rassemblement de ressaisissement peut avoir lieu, présidé bien sûr par Staline.
Aujourd'hui, notre pays est dans une situation meilleure qu'il y a 23 ans. Aujourd'hui, nous avons plus d'industrie, plus de nourriture, plus de matériel. Aujourd'hui, nous avons des alliés qui forment avec nous un front uni contre les envahisseurs allemands. Aujourd'hui, nous avons la sympathie et le soutien de tous les peuples d'Europe tombés sous le joug de la tyrannie fasciste. Aujourd'hui, nous avons une armée, une marine exceptionnelle, défendant au prix de leur vie la liberté et l'indépendance de notre pays.
Ce rassemblement, il a lieu à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. C'est pour cela que la comparaison est faite avec la situation 23 ans avant. Il y a des alliés. Il insiste, Staline, sur les alliés.
Oui, le premier allié, c'est la Grande-Bretagne. Le deuxième allié, même s'il n'est toujours pas dans la guerre, il est toujours neutre, ce sont les États-Unis qui ont décidé d'étendre la loi Prébaille à l'Union soviétique.
C'est-à-dire que les États-Unis fournissent
le matériel.
Les camions, les moteurs
d'avion, les avions. Le matériel va commencer à arriver par Vladivostok. sous le nez des Japonais. Il va commencer à arriver par Mourmansk, en mer Blanche, et un peu plus tard par la Perse.
Là, le discours n'emploie pas le mot camarade. Peu à peu, Staline va employer le mot frère, sœur,
oui,
pour désigner ceux qu'il rassemble et à qui il va être obligé de donner un minimum de liberté, d'ailleurs.
Oui, déjà, le fameux discours du 3 juillet, il emploie le fameux « frères et sœurs », qui a une connotation
déjà
religieuse,
oui,
et pas un mot, pas une fois sur les... Il y a 2200 mots dans ce discours, vous ne trouverez jamais le mot « communiste » ni « bolchevique ».
Fin 41, la victoire est devenue introuvable pour les Allemands, qui doivent admettre que l'année va s'achever sans que l'avantage soit pris de manière décisive. Hitler dit « on a tout de même vaincu, ce qui ne nous dispense pas » de lancer une nouvelle offensive, mais c'est en 1942 que la décision interviendra. On vous retrouvera, parce que Guerre et Histoire va continuer des publications à un rythme régulier. En 1942, la résistance des Russes donne lieu à beaucoup d'articles, un véritable légendaire dont va s'emparer un peu plus tard, après lecture de journaux à Londres, la Russe Blanche, qui était Anna Marley.
От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит.
C'est la source du chant des partisans, la guerre patriotique devient une guerre universelle. Guerre et Histoire, numéro 2, Barbarossa. Et puis je voudrais signaler Grandeur et misère de l'armée rouge que vous publiez aux éditions du Seuil, pas tout seul.
Non, avec Lacha Otmezouli, mon collègue géorgien et parfait russisan.
Très beau témoignage, et retenons celui d'Elena Bonner, puisqu'elle vient de disparaître aux États-Unis où elle s'était exilée. Elena Bonner qui vous dit... C'est une guerre des lieutenants, des sous-lieutenants et des soldats.
Oui, tous ces jeunes amis de Leningrad qui sont morts au front 6 semaines après y avoir été engagés.
Et ce n'est pas la guerre de Staline.
Non.
От леса, дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо.
Une émission préparée par Frédéric Martin avec le concours d'Alexis Ipatovstev à la réalisation, Jacques Sigal à la technique de Farguerid et Jean-Philippe Jeanne. Demain, Marie-France Garot nous parlera de Georges Pompidou dont c'est le centenaire de la naissance.